Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien.
Allez,
ça fait des gros dîners chauds.
Allez-y.
J'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Putain,
ça sortait. Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les touches fermes, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette.
Oui,
c'est
la culture.
Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez,
c'est
cool. Sortez les gens parce que.
Ok, vous voulez sortir.
Écoutez,
sortez.
Veuillez sortir.
Je suis chocolat.
Vous sortiez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h, vous écoutez Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et on se retrouve pour l'émission Sortez. Je suis bien évidemment avec Samuel, salut.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va,
la
ça
la pêche
va. Ouais, toujours.
Et donc aujourd'hui, on retrouve Nathanaël Robin et Steve Pénicaud, deux réalisateurs membres de l'association Les Petits Créateurs. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Et donc vous étiez venu fin février pour annoncer la projection au pâté de Tour Nord du film Mon Pouvoir Intérieur, que tu as réalisé Nathanaël, mais sur lequel vous avez travaillé tous les deux, et d'un court-métrage nommé L'Esclave de l'Autre, que tu as réalisé Steve. Et donc petite première question, comment s'est passé ces projections?
Super, franchement on a eu des bons retours, ça a été une bonne séance, on a pu débattre à la fin avec les spectateurs et on a appris pas mal aussi sur nous, notre manière de réaliser, de mettre en scène, donc très enrichissant.
Oui, on a pu voir aussi des questions qui étaient, on s'y attendait pas forcément, et le fait que les gens soient aussi attentifs, on va dire, au film, vu la qualité des questions, ça nous a fait un petit peu plaisir qu'ils aient pas juste... regarder le film comme si ils étaient un peu fatigués en fin de semaine, etc. Les gens étaient assez intéressés et nous, ça nous a fait plaisir de voir que ça parle à d'autres personnes aussi.
Ouais, c'est ça, ils ont pas mal dit aussi leur ressenti. Voilà, si c'était vraiment senti incarné par les personnages. Enfin, voilà. Non, c'était chouette, vraiment.
Donc, il y a eu un certain raisonnement auprès du public.
Ouais, clairement.
Chouette.
Oh, ouais, beaucoup de femmes qui sont venues me voir en me disant, ah bah, disons que... à ton âge, de parler des femmes comme ça. Donc j'ai dit, oui, non, mais donc voilà, j'ai une femme aussi qui est venue me voir, qui est en rémission d'un cancer du sein, qui est venue me parler aussi de... Enfin voilà, pas mal de témoignages aussi assez bouleversants, donc voilà, ça résonne chez les gens. Et waouh, on se prend ça et on fait, ok, bon bah ça marche quoi.
Ouais, ouais, bah c'est exactement ce que tu disais la dernière fois, en s'attaquant à des tranches de vie,
ouais.
Tu connectes plein de gens.
C'est ça. Donc après, bon, forcément, il y en a qui sont sentis moins concernés. Ou alors, comme c'est un film choral, il y en a qui sont sentis moins accrochés parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Mais voilà, après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre.
Et est-ce que vous avez pu avoir des retours aussi des gens des cinémas, du milieu du cinéma?
Ouais, donc là, on refait une projection au pâté Tour Nord.
Et oui, on y vient,
donc,
on y vient.
Voilà, le vendredi 9 mai à 20h. On en fait une aussi, donc, Steve.
On en fait une au cinéma de Loche le 25 avril à 21h au Royal Vigny.
Et après, on est en train aussi, là, on est en discussion avec donc, UGC pour essayer de faire un partenariat. Et aussi certains cinémas pâtés à Paris. Donc normalement, il y a une projection qui va se faire le 15 mai à Massy. Mais voilà, tout ça, c'est en discussion. Donc, voilà.
Oui, c'est ça.
Et donc du coup, en espérant que vous soyez diffusé à Massy, en dehors de la région Centre-Val de Loire, c'est un facteur de réussite pour vous?
Bah, oui, effectivement, le fait de... Parce qu'ici, on joue presque à domicile, donc c'est... On sait que potentiellement les gens de la région peuvent essayer de nous mettre en avant pour justement essayer de valoriser aussi la région, alors que quand on va à Paris ou dans d'autres villes, ils ont ce truc de bah, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, et là on part vraiment de zéro. Et donc si jamais il y a des projections, et c'est aussi un autre public, c'est vrai que le public parisien, peut-être qu'il est habitué à voir d'autres films, parce qu'en région il y a aussi beaucoup de films d'art et essai qui sont mis aussi en avant, et alors qu'à Paris c'est peut-être un peu plus des films bien médiatisés ou autres. Du coup si on est là-bas, on peut s'attendre à d'autres critiques, que ce soit positif ou négatif. Puis oui, effectivement, ça va nous servir aussi, entre guillemets, de carte de visite pour les prochains films. Donc je dirais que oui.
Ouais, donc c'est plutôt encourageant, on l'a dit. Si vous venez ici aujourd'hui, c'est pas par hasard. Il y a quand même plusieurs dates à annoncer. Donc c'était ce vendredi 25 avril à Loche à 21h et le 9 mai au pâté à Tours, plus négociation avec les UGC en région parisienne.
C'est ça.
C'est ça. Et donc comment vous y êtes pris pour démarcher les salles?
Eh bien, on a été au culot. Là, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Faut y croire. Donc, bah voilà, on arrive avec nos petites bouées et puis on dit bah on a fait un court métrage, un long métrage. On explique un peu d'où on vient, de quoi nos films parlent. Et puis voilà, on essaie de susciter la curiosité. Et puis après, donc on a une carte de visite où on a un mail à contacter, un numéro de téléphone. On renvoie vraiment après dans le détail qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place avec le cinéma. Et puis après, ils nous recontactent ou pas et on essaie de négocier, on relance, etc. Donc c'est un travail, c'est fastidieux.
Bah, c'est vrai qu'on essaye quand même d'y aller en présentiel parce qu'on se dit que c'est mieux le fait de, au lieu d'envoyer un mail ou juste un numéro de téléphone, comme ça au moins peut-être qu'ils peuvent remettre nos visages et puis ils peuvent peut-être sentir un peu la passion qu'on a. Et ça fait aussi une première prise de contact avec les gens, effectivement. Donc à chaque fois, on se déplace, nous, dans les cinémas et après, là, ce sera. Enfin, après, on envoie des mails ou des numéros de téléphone. Mais premier contact, oui, on essaye d'avoir ce contact humain quand même.
Parce qu'après, même si on a des refus, ils nous disent bien, bon bah voilà, parce que ça ne correspondait pas forcément à la politique du cinéma, mais revenez, parce que nous, malgré tout, on a envie de mettre des jeunes en avant. Mmh. Donc même si ça ne marche pas pour ce film-là en question, on peut revenir avec d'autres projets. Donc il y a quand même une ouverture aussi après, même si ça ne marche pas sur le moment, quoi.
Et alors, donc nous, on invite tous les auditeurs derrière leur poste de radio ou directement en web radio sur le site internet à aller voir donc la première émission qu'on a fait à vos côtés. Vous parliez plus longuement et plus en détail. On a bien décortiqué tout ce qui a accompagné ces projets. Donc on le rappelle pour le long métrage Mon pouvoir intérieur et le court métrage L'esclave de l'autre. Est-ce qu'on peut en rappeler les synopsis?
Alors Mon pouvoir intérieur, c'est l'histoire de quatre collègues sages-femmes qui, malgré elles, vont devoir se réapproprier leur féminité dans une société sur le point de s'effondrer. Donc vraiment, c'est ces quatre sages-femmes qui sont remises en question face à leur propre féminité, leur rapport au corps, à la sexualité et à l'image de la femme dans la société. Donc c'est vraiment voilà, comment se réapproprier sa féminité dans un monde un peu en bouleversement. Donc ça traite vraiment de l'écoféminisme et c'est comment redéfinir une société en dehors du capitalisme patriarcal, donc le mot à la mode qu'on entend un petit peu. Donc c'est en s'enlevant cette domination de l'homme et de l'argent sur la femme et les minorités, que ce soit sexuelles, de genre, etc. Voilà.
Et si on se replongeait dans l'ambiance du film avec le trailer?
Ah, moi je voulais en entendre un peu plus sur L'esclave de l'autre avant.
L'esclave de l'autre, c'est du coup ça se passe dans une vieille France, tout un numéro de cirque est monté où un homme noir qui s'appelle Djibril va subir beaucoup de clichés raciaux sur scène et en fait ça va être en opposition avec le public d'aujourd'hui parce que du coup ces clichés qui est premier degré font très mal et c'est cette vision là alors le film va perdre aussi énormément les spectateurs, ce qui était le but, mais on va pouvoir voir du coup l'évolution des mentalités et de tout ce qui a pu se passer avant et la réaction des gens aujourd'hui par rapport à ces numéros, on va dire, qui étaient comiques à l'époque, à la frustration d'aujourd'hui.
Et donc sans plus tarder, on va se plonger dans l'ambiance de Mon pouvoir intérieur avec le trailer.
Honorons la forêt et redonnons-lui son énergie. Les saisons difficiles l'attendent.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous lie. Je suis plus comme avant. Je sais même pas comment tu fais pour encore me désirer.
La vie me rappelle que je n'ai pas été à la hauteur de mon rôle de mère.
T'as tout détruit. Les femmes, la nature.
Vous tuez tout ce que vous touchez. Ah, je veux pas...
Je me libère complètement maintenant.
Il va falloir qu'on en fasse ou des choix.
Lâchez ces pas!
Qu'est-ce que tu attends de moi?
Ce ne sont pas des pouvoirs de sorcière. Ce sont des pouvoirs de femme.
Et une fin qui claque pour, voilà. Pour ce trailer ou pour les plus grands défenseurs de la francophonie, la bande-annonce.
Et j'aimerais revenir sur la projection, du coup. Je parlais qu'il y a eu des débats, du coup, après la projection. C'était autour de quoi?
Ben, c'était vraiment soit les thèmes qu'on a abordés, soit un petit peu des réflexions sur comment les gens ont apprécié l'histoire ou non, la mise en scène. Donc ça a vraiment été très diversifié. On a eu aussi beaucoup de gens qui nous disaient qu'ils ont aimé et pourquoi. Enfin, ça a vraiment été super varié.
Oui, c'est ça. C'est que dans la salle, du coup, il y avait plusieurs types de spectateurs, on va dire. Des gens qui ont moins l'habitude d'aller au cinéma et qui, du coup, avaient un avis, entre guillemets, moins poussé. Ou en tout cas... contrairement à d'autres qui n'allaient pas beaucoup chercher. Et on a eu aussi quelques connaissances à nous qui font partie de ce milieu-là et qui, du coup, sont venus voir le film et qui étaient un peu plus pointus sur certaines questions. Par exemple, on nous a demandé comment on a pu diriger nos acteurs, comment on a fait, comment on a trouvé les bonnes techniques ou sur la préparation des films. Et c'est vrai qu'aussi, on a eu beaucoup de questions après, parce qu'il y a des gens qui n'osaient pas prendre la parole devant toute la salle. Du coup, quand... entre guillemets, la salle commençait à se vider, les gens sont venus un par un pour soit répondre justement aux questions qu'ils n'osaient pas poser devant toute la salle, soit juste nous donner leur ressenti. Donc oui, non, ça a été bien varié quand même.
Et alors, comme première projection pour ces projets-là, on y met beaucoup de sa personne aussi.
Oui.
Est-ce que vous arrivez déjà à prendre un peu de recul ou vous êtes encore en plein dans cette effervescence de retour, diffusion, presque fin de création, même si c'est déjà fini depuis un certain temps, mais...
On est quand même, oui, pas mal dans cette effervescence. Bah, là, on essaie de démarcher d'autres cinémas, donc c'est quand même assez fastidieux. Donc, il faut rester dans un rythme parce que sinon, après, si on se relâche, c'est foutu, quoi. Donc, on n'a pas le choix. Il faut remonter en selle rapidement. Donc, on apprécie le moment, même si forcément, comme on en quand on organise ce genre d'événement, on n'apprécie pas forcément toujours parce qu'on a envie que ce soit le plus parfait possible. Mais sinon, ouais, on essaie d'apprécier un peu le moment et puis après, on repart directement dans l'action, quoi.
Oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas fait réellement de pause. Là, on est reparti pour d'autres projets. En parallèle, nous, on travaille quand même sur nos futurs projets. Donc, en fait, on ne fait pas vraiment de pause,
non.
Au final.
Un boulot à plein temps.
Exactement.
Alors, on a déjà pu se plonger dans l'ambiance sonore avec un avant-goût et le trailer, mais vous avez ramené avec vous donc plusieurs titres,
et oui,
dont un de la bande originale du
film. Tout à fait, composé par Maxence David.
Absolument, et ce titre, c'est Adieu déchirant. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Donc, on est vraiment, pour vous préparer à cette écoute, on est sur de la musique de cinéma. Donc, on vous laisse découvrir tout ça.
Thank you.
Vous venez d'écouter Maxence David et le titre Adieu déchirant sur Radio Campus Tours. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à nos invités. Je rappelle que Nathalie Robin et Steve Pénicaud, deux réalisateurs membres de l'association Les Petits Créateurs, sont avec nous. Alors Maxence David, c'est le compositeur de la BO de Mon Pouvoir Intérieur. Vous avez pu réaliser tout un album de la BO du film sur les plateformes.
Oui.
Comment a été composée la musique ? Est-ce qu'il y a eu une petite, un laissé-passer d'une carte blanche ? Est-ce que vous étiez complètement impliqué ?
Vraiment, on a une collaboration ultra fluide. Enfin, ça a été incroyable. Enfin, je veux dire, il a quand même réussi à faire vivre un orchestre avec juste un ordinateur. Ça a duré 7 à 8 mois et franchement, je suis tellement reconnaissant de ce qu'il a fait. Enfin, même là, en écoutant, je suis vachement ému parce que j'ai suivi tout le processus avec lui. Et il a aussi eu cette liberté. Il a apporté un souffle complètement nouveau au film. Enfin, il a vraiment poussé les curseurs à l'extrême en termes même de professionnalisme, etc. Et en le voyant chaque jour, quand il était sur son ordi, j'étais bluffé par ce qu'il a fait. Et faire vivre ses personnages, vraiment, ce qui se passe à l'intérieur d'eux et le faire porter en musique comme ça, alors qu'il n'avait pas de formation de base. Enfin, non, c'est incroyable. Je suis trop fier de lui, quoi.
Ah, il n'avait pas de formation de base.
Non. Enfin, vraiment, il a fait ça, au fur et à mesure, en fait.
Bah, c'est vrai que de base, il ne fait pas de musique de film. Lui, il est plus concentré sur des prods qu'on peut retrouver dans du rap ou autre. Et du coup, là, ça a été aussi un bon challenge pour lui. Et il s'en est sorti.
Il a fait ça naturellement. Enfin, c'était fluide, quoi. C'était impressionnant.
À retrouver sur Spotify.
Oh oui.
Entre autres.
Entre autres.
Et donc, est-ce que l'aspect sonore et musical, il était vraiment important dans vos films ?
Moi, la musique, déjà, ça transporte. Enfin, le spectateur, ça plonge dans un autre univers. Et là, vraiment, il a exprimé des choses que même l'image n'exprimait pas. Enfin, c'est ça qui est fort dans la musique. Et il a vraiment renforcé cet univers. Et
La musique est devenue presque un personnage à part entière.
Clairement, mais c'est un personnage à part entière, tout à fait.
Tellement c'est important aussi. C'est vrai que ça a développé plusieurs personnages au final, que chacun a son thème et son squelette. Donc, ça a vraiment aidé.
Ouais.
Et quelle discussion vous avez eue du coup pour définir cette bande originale, ce qu'elle devait être ? Avec quelle intention ? Est-ce que c'était vraiment simplement en se calquant sur les personnages ? Où il y a eu une autre volonté pour créer cette ambiance-là.
On a essayé vraiment au départ de faire que chaque instrument soit associé à un personnage. Et puis après, on a vu comment ça pouvait se concorder ensemble et quel rythme on voulait mettre, quel univers on voulait transporter nos personnages.
Et donc, tu étais pleinement impliqué aussi dans cette création.
Ouais. Mais il a fait ça aussi. J'ai eu ce regard extérieur, mais
Et du coup, vous travaillez en ce moment sur un petit projet, un concept de live TikTok. En quoi est-ce qu'il consiste ?
Oui. Alors ça c'est fallait pas en parler. Non, je rigole. Alors live on en a fait que deux, c'était une galère parce qu'on a deux vieux qui font des TikTok, c'est l'enfer. On s'est marrés, on s'est foutu de notre gueule et de la gueule des gens parce que c'est vrai que c'est un univers assez particulier. Mais
je viens de dire deux vieux qui font un live TikTok.
Oui,
c'est vrai. Quand on s'est vu le faire, parce que on a commencé à faire. En fait, on a fait le live en partant du principe qu'on allait travailler aussi pendant et qu'on pouvait répondre aux questions, etc. Du coup, nous, en fait, ça nous permettait de montrer comment on pouvait nous travailler de notre côté.
Et alors, sans travailler parce qu'on n'arrive même pas à travailler.
On était tellement concentrés par certaines questions, puis il était tard, on avait fait des trucs avant, donc on était assez fatigués aussi. Et on ne connaît pas non plus de fou la méta de TikTok, etc. Donc, puis divertir des gens, entre guillemets, aussi en live, ça demande un effort de concentration.
C'est beaucoup de gens aussi qui sont là pour se foutre notre gueule aussi, donc c'est ça. Contre, ce qu'on fait aussi, c'est que là, moi, je mets des extraits du film à côté, des rushs, donc principalement des rushs là, qui se passent dans l'hôpital avec les sages-femmes. Et là, on a pas mal de vues parce qu'il y a des gens qui sont vraiment concernés, donc on met avec des textes que les sages-femmes sont épuisées, etc. Et on a pas mal aussi de témoignages de moi, je travaille dans le milieu hospitalier, c'est vrai que c'est compliqué, donc on arrive à avoir un petit peu une communauté qui se crée. Mais les lives, là, on va arrêter pendant un petit moment parce qu'on va essayer de mieux former ça. Mais
Non, ça va, je te trouve un peu dur quand même dans les vieux, c'était l'enfer.
Non, mais tu nous aurais vu le premier TikTok, mais c'était l'enfer. Mais je veux dire, en plus, on était claqués, on était morts de rire. Ah ouais, non, mais oui, parce qu'en plus, je voulais inviter quelqu'un et ça n'a pas marché. Donc j'étais là, non, parce qu'on était tellement non professionnels qu'il fallait faire trois lives et tout. Donc quelqu'un voulait que je l'invite. J'ai dit, non, je peux pas. Donc après, on était morts de rire. Enfin, l'enfer.
C'est vrai qu'on a parlé plus longuement de ces films lors de la précédente émission, mais on trouvait intéressant de détailler davantage vos méthodes de réalisation, votre parcours, votre formation et partir à la découverte des procédés de réalisation de manière un peu plus générale.
Ouais.
Est-ce qu'on peut faire décrire un petit peu pour les gens qui n'y connaissent rien comme nous, étape par étape, comment vous vous y êtes pris sur ces projets ?
Je t'en prie, Steve.
Bon, je m'y lance. C'est que moi, du coup, c'était un peu particulier parce qu'on avait des commandes à tenir, entre guillemets, dans l'école de cinéma qu'on avait. Mmh. Et on nous imposait des thèmes avec des choses à faire. Donc, moi, j'ai réfléchi. J'ai eu l'idée, du coup, du court-métrage « L'esclave de l'autre » parce qu'il fallait jouer avec le 4 tiers, qui est un format d'image, on va dire. Et du coup, je me suis dit que j'allais justement mettre le passé et le présent... de manière différente, et j'ai joué avec ça, et au final du coup je me suis rendu compte que le projet, je voulais qu'il soit plus long que du 3 minutes parce qu'on était obligé de faire du 3 minutes dans cette école là et je me suis dit non, je veux raconter quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'ai besoin de le développer un petit peu plus. Du coup j'ai gardé ça de mon côté, je l'ai gardé en tête un petit moment parce qu'après on est passé sur Par-delà les murmures qui était le court métrage de Nathanaël. Du coup j'avais mis le mien un peu en pause, puis un jour j'ai repris l'écriture et moi, je me suis vraiment plongé dedans. Je suis allé un curseur trop loin, je pense, de ce que je voulais. Et après, en ayant pareil un autre temps de pause, j'ai un petit peu enlevé certaines séquences ou autres qui auraient pu, du coup, dénaturer le film. Et une fois que j'avais un scénario qui me plaisait, où j'avais quelque chose de bien, je l'ai fait lire à mes amis, à l'équipe technique et à aussi mon ancien professeur pour avoir leur avis, en fait. Et j'ai eu des avis différents, qui n'allaient pas forcément dans mon sens, mais je comprenais, mais je suis assez buté, du coup je voulais ma vision artistique à moi. Donc j'ai fait « Ok, bon, bah, je sais à quoi m'attendre déjà avec les retours du scénario, puis on va le faire ». Et ensuite, bah, pendant quelques mois, je me suis dit « Ok, bah, je reprends le scénario, je fais « Bon, bah, il me faut tel décor, il me faudra tel costume, tel comédien ». Après, on contacte les gens, soit qu'on les connaît un petit peu d'avant, soit on va les chercher... sur les réseaux ou des connaissances de théâtre, où on y va pareil un petit peu au culot, on va dans des groupes de théâtre, on fait bah, qui aimerait bien le faire, est-ce que vous voulez aussi passer un casting, etc. Et une fois qu'on a entre guillemets les bonnes personnes, bah, après pareil, on organise le plateau sur les disponibilités des gens. Donc ça a été une semaine sans compter les reshoots à plein temps. Et après, il y a eu aussi cette chose de... Moi, je devais fabriquer le décor parce que le chapiteau à louer, c'était très cher. Du coup, on s'est débrouillé, on a acheté du tissu, on a pris une ancienne volière qu'on a démontée pour créer la structure du chapiteau. On l'a fait. Pareil, il y a eu des tests avec un cerceau qui prend feu, donc avec du gel de feu de cinéma. Donc, c'est du feu qui, techniquement, ne brûle pas. Et donc voilà, on a fait plein de tests comme ça. Puis une fois arrivé le jour du tournage, bah, on a enchaîné les plans. Donc on tourne déjà par décor pour du gain de temps. Donc on a fait 3 jours dans le chapiteau non-stop. Après, on a fait une journée dans la loge et une matinée du coup dans un cinéma parce que j'avais besoin d'un cinéma, etc. Et donc ça a été assez le rush. C'est vrai qu'on était obligé de le rentrer en une semaine parce qu'après, les gens n'étaient pas dispo. Du coup... moi, en plus, comme je suis assez tatillon, j'avais besoin de vraiment certains plans comme je voulais, etc. Donc, je n'ai pas laissé trop respirer. Donc, c'était quand même des grosses journées, mais avec des horaires un peu de bureau. C'était, on va dire, de 8h à 19h. Et après, du coup, les gens, ils n'avaient pas forcément de mal à se recalquer dans leur vie. Donc, ça a été des journées assez intenses, beaucoup de fatigue. Mais voilà, après, on est parti en post-production, donc ça a pris un peu de temps. Et j'ai dû me former à l'étalonnage, que j'y connaissais pas grand-chose. Et du coup, bah, je me suis formé tout seul en apprenant de mon côté. J'ai eu un rendu que j'aimais bien. Et pareil, Maxence a bien voulu me faire une musique pour mon court-métrage parce que je voulais pas d'ambiance. Enfin, je voulais pas que la musique aide à ce que ce soit moins malaisant. Je voulais vraiment que ce soit oppressant, etc. Donc j'avais juste besoin d'une musique de générique. Et il a réussi à retranscrire aussi dans cette musique le côté glauque et en même temps forain de l'époque. La musique, je la trouve vraiment incroyable. Et là, actuellement, outre la diffusion, il y a aussi, pour le court-métrage, essayer d'aller chercher certains festivals. Donc là, pour l'instant, c'est plus de l'administratif que du créatif.
Après, je peux me permettre de te compléter par rapport au scénario. Soit c'est une idée qui vient de nous, et donc après, on regarde quel thème on veut développer, quels personnages seraient les plus adaptés pour développer ce thème. Et puis après, donc là, on est sur cette logique de... Bah, on crée la situation initiale pour présenter nos personnages, la situation dans laquelle ils sont. Et puis après, voilà, les obstacles, qu'est-ce qu'ils vont devoir surmonter, est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs ou non. Et puis voilà, c'est vraiment créer de la tension sans arrêt, de la péripétie jusqu'à un dénouement est-ce qu'il va se faire ou pas, et voilà. Et puis après, on reprend les étapes, après le scénario de prépa, tout ça, comme a dit Steve.
Moi, je m'étais noté un truc aussi, juste après le scénario, du coup, au-delà d'écrire les dialogues, les scènes, les dynamiques entre les personnages, de trouver un financement. Est-ce que, dans votre cas, ça a été une chose importante ?
Bah oui, comme chaque film. De toute façon, maintenant, on ne peut rien faire sans argent. Donc, soit on est là, on monte un dossier de production avec vraiment expliquer à quoi l'argent peut servir, etc., les notes d'intention, ce que nous, on veut faire de ce projet-là. Donc après, on le voit pas mal de productions. Après, ça prend ou ça prend pas, parce que surtout quand on est personne, ça prend moins. Soit, bah, après, comme nous, on y va sans mauvais jeu de mots. Voilà, je ne vais pas dire d'expression comme ça. Mais soit après, on y va par nous-mêmes et puis on contracte un prêt comme nous, on a fait. Et voilà, on gère notre argent et voilà, après, on finance tout ça, notre projet, quoi.
Et alors, quel matériel est-ce que vous utilisez ? Il doit y en avoir pas mal.
Tu veux commencer ? Vas-y, commence.
C'est vrai que du coup, on a dû nous-mêmes avoir du matériel, parce que souvent, du coup, ce matériel-là est prêté par les boîtes de production. Soit elles ont déjà un stock à eux qui est disponible et du coup, elles le mettent à disposition pour les tournages, soit elles vont le louer chez des gens qui fabriquent ce matériel-là. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, on ne peut pas se permettre réellement de le louer parce qu'au final, ça revient très cher, surtout pour Nathanaël qui avait un mois de tournage. Donc là, nos deux prix cumulés ne suffisaient pas. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va regarder meilleure qualité-prix et de ce qu'on a besoin sur de la débrouille, sur des trucs comme ça et tout. Donc, par exemple, bah, les lumières, c'est des lumières de chantier avec énormément de batteries qui n'ont pas besoin d'être branchées, etc.
Surtout pour tourner dans la forêt, parce qu'après, quand on est en lieu ouvert, n'importe comment.
En décor naturel.
En décor fermé, non. J'essaie de me concentrer, j'ai du mal.
En décor réel ?
En décor, bah, les appartements, décor fermé. Oui, il y a de la lumière naturelle, les spots, les machins. Donc voilà, mais quand on est à l'extérieur, surtout, bah, moi, j'adore les trucs cons parce que je suis assez. J'aime bien partir loin. La forêt de nuit, bon, bah, faut se l'éclairer, la forêt de nuit. Donc là, forcément, des lights de chantier. Et bah, là, on fait avec ce qu'on a. Quoi. Donc,
Mais du coup, oui, il y avait un rapport qualité-prix, puis savoir aussi comment les gérer, à quelle distance les placer. Donc ça, on a improvisé. On a pris des trépied qui, moi, me servait à l'époque pour un fond vert que j'avais, du coup. Donc, on a réutilisé ça. On a réussi à emboîter les deux en trichant un petit peu. Et après, pour Nathanaël, il a utilisé l'iPhone 15 Pro Max. Mmh. Et du coup, il a acheté un stabilisateur aussi. Mmh. Donc, pour essayer qu'il y ait des fois moins de mouvements ou de tremblements quand ce n'était pas nécessaire. Et sinon, bah, pareil, dans mon court-métrage, à un moment, il me fallait un travelling arrière. Je n'avais pas de rail, etc. Du coup, bah, on l'a fabriqué avec mon père, on a mis une planche d'isolant sur deux rondins de bois avec une corde et on a tiré. Donc au final, on a fait de la débrouille avec quand on n'avait pas vraiment le budget.
Mais ça marche plutôt bien.
Oui, ça marche.
Et du coup, est-ce que dans vos objectifs de progression, il y a cette envie d'accéder à des studios et des plateaux de tournage ou de rester dans des décors réels ou utiliser du coup se démerder
Bah ça dépend en fait en fonction
je dirais les
de
deux,
ouais
en fait.
Ouais, ça dépend de ce qui vient à nous et puis au fur et à mesure de nous comment on va évoluer, comment nos projets vont prendre de l'ampleur, comment on va se faire connaître aussi avec les autres du milieu qui veulent travailler comme nous, donc savoir un petit peu ce qui s'offre à nous. On sait que bah forcément on a envie de se professionnaliser, donc de faire dans des cadres plus professionnels comme les studios, etc., mais si on n'a pas les opportunités pour le moment, bah on va pas s'empêcher de créer, on va continuer avec la débrouille quoi.
Et puis je pense que pardon,
non, je t'en prie.
Je pense qu'il y a aussi ce truc de si on peut le faire en décor naturel, par exemple une forêt, personnellement
oui,
en tout cas, je préfère trouver une forêt et tourner dans un décor naturel, que ce soit pour l'équipe technique, les acteurs, quitte à avoir d'autres problèmes sur le tournage, plutôt que de recréer une fausse forêt et de me dire bah c'est pas grave, on la démonte dans une semaine.
Voilà, ma question elle vient compléter ce que tu viens de dire, c'est est-ce que le studio c'est un objectif en soi, une fin en soi qui est enviable, vraiment, ou justement on se ferme pas la porte à se dire non mais en fait il y a quand même de superbes opportunités à faire ça aussi en extérieur.
Ça dépend de l'univers aussi, pardon. Oui, ça dépend de l'univers qu'on a envie de créer. Si on a un vaisseau spatial, etc., là tout de suite, il y aura besoin de studios, de choses comme ça. Après, quand on peut faire du naturel, parce que aussi le secteur du cinéma est très polluant, donc aussi il faut faire attention à ça. Nous, c'est vrai que les déplacements, tout ça, construire les décors, et puis après qu'ils sont jetés, qu'ils ne sont pas réutilisés, voilà, il y a aussi ça, cet impact écologique qui est aussi important de prendre en considération. Donc bah, si on peut faire de manière naturelle sans avoir trop d'impact, on le fait, et sans que ça fasse aussi trop cheap par rapport à notre histoire. Sinon après si on n'a pas le choix on le fait, mais c'est vraiment faut trouver cet équilibre quoi.
Bah, ce qui est surtout important je pense c'est par exemple quand on a un lieu qui revient très souvent, je dirais un lieu fermé par exemple un appartement, et là s'il peut être construit de A à Z pour que ce soit vachement plus simple pour l'équipe technique. Par exemple, si on peut démonter un mur pour faire passer une caméra, là, OK, ça évite de réellement tourner dans un appartement de quelqu'un d'autre et de se dire, bon, bah, ça, on ne peut pas trop le faire, ça non plus, ça, faut faire attention à ça. Là, ça donne une liberté, je pense, mais sur des décors naturels, c'est... Alors, je comprends l'intérêt de le faire, effectivement, c'est pour ça que des gens le font. Mais personnellement, je pense que je préférerais avoir cette identité-là et de me dire, bah, au moins, je sais que c'est là et il y a du vrai un petit peu. Donc, je dirais que c'est un mélange des deux, que ça dépend de ce qu'on veut filmer à certains moments.
Et alors, quels ont été les plus gros défis techniques sur vos tournages respectifs et comment vous avez réussi à les surmonter ?
Bah moi, c'est vraiment la forêt. C'est éclairer cette forêt aussi, comment gérer la figuration.
De nuit,
ouais, évidemment, le plus simple. Et aussi gérer cette figuration simulée avec nos peu de moyens, une forêt qui va être détruite, en fait. Mmh. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi comment jouer avec le cadre, etc. Ça, ça a été compliqué. Aussi, l'hôpital, parce qu'effectivement, un grand merci à l'IRFSS, que je ne me trompe pas, voilà, je crois, voilà, Chambre et les Tours, qui nous ont prêté le décor incroyable de cet hôpital, mais comment voilà, donner vie aussi avec peu de figuration, il faut aussi y croire. Donc, c'est parce qu'on représente vraiment un milieu hospitalier. Donc là, on a quand même des choses à respecter en termes d'image, en termes de décor, d'accessoires. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est quand même l'image de l'hôpital public, entre guillemets, qu'on a aussi en jeu. Donc, après, il faut voir comment ça participe à notre histoire ou pas. Nous, on a utilisé aussi très peu de moyens, très peu d'accessoires pour vraiment montrer cet hôpital qui est en déperdition et qui a de moins en moins de matériel et de moins en moins de personnes. Donc, ça allait dans notre sens. Mais s'il faut reconstruire un vrai hôpital, là, c'est plus compliqué.
On va pas se lancer dans les grands travaux tout
non.
de suite.
Non.
Et alors... Est-ce qu'il y a des plans, des techniques dont vous êtes particulièrement fier et qu'on peut s'amuser à chercher et à reconnaître dans le film ?
Bah toi, ton travelling circulaire, c'est vrai.
Ah
que...
oui, moi j'adore le travelling circulaire. Un mot qui n'existe pas apparemment, mais je l'ai inventé. Un travelling circulaire. Voilà, maintenant les gens le sauront.
Il avait déjà fait un test sur Par-delà les murs, son premier court-métrage, où il avait innové ça. Et...
Enfin, ça existe, on le voit dans beaucoup de films, mais c'est vraiment ce système où on filme de manière circulaire de personnages, de protagonistes, et puis nous, on tourne autour. Donc voilà, donc là, ouais, j'aime beaucoup ce plan-là.
Là, il l'a upgrade. C'est vrai que quand j'ai lu son découpage technique, j'ai fait « Ah, ça, d'accord, ça me rappelle un truc. Bon, bah, super. »
Et qu'est-ce qui a pris le plus de temps entre la post-prod et le tournage ?
La post-prod, moi j'y suis encore, je suis bloquée là. Oui, je suis encore là. Forcément, quand on voit le film en salle, il faut qu'on fasse des ajustements par rapport au mixage du son, à l'étalonnage. Oui. Donc forcément, il y a des choses à retravailler en permanence. Donc, j'espère que c'est bientôt la fin parce que j'en peux plus. Ça fait comme depuis le mois de septembre que j'y suis. Donc ouais.
En vrai, le tournage, ce n'est pas la période la plus longue et la plus compliquée, parce qu'on sait que notre journée elle va de telle heure à telle heure, qu'on doit rentrer ce qu'on a rentré là, et qu'on soit satisfait ou pas, techniquement, il y a une date finie. Alors que la post-production, on peut être coincé sur des petits détails.
Ah oui, on peut être tatillon en plus. Ouais,
et le pire, c'est que là, la seule personne qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes. Donc c'est là qu'on perd un temps fou, parce que contrairement à d'autres, nous, on n'a pas un calendrier à respecter avec quelqu'un qui nous dit qu'il faut que ça sorte pour telle date, parce que ça va en chaîne télé ou je ne sais pas où. Du coup, là, c'est à nous de se dire, OK, est-ce que ça, je vais réussir à le régler, à le gérer ? Combien de temps ça va me prendre ? Bon, tant pis, je fais l'impasse. Donc c'est pour ça que ça prend aussi autant de temps. C'est que déjà, on n'a pas une équipe derrière.
Et on n'a pas de connaissances aussi, tout simplement. Enfin,
vous apprenez aussi beaucoup sur le tas.
Oui, c'est ça. Donc forcément, donc après, on mixe en 7 points pour la salle. On ne sait pas comment ça va rendre en salle. Donc on ne sait pas si on va entendre derrière, etc. Qu'est-ce qu'on va entendre ? Parce que si on entend les dialogues derrière, c'est un peu chiant. Donc il faut aussi voir comment ça se répartit. Et on peut le voir qu'en salle. Donc il faut qu'on fait des tests, genre une semaine avant la projo. Donc si ça foire, c'est compliqué de tout retravailler parce qu'il faut faire un export de 5 heures, après réexporter un DCP, etc. Donc c'est un fichier cinéma. Donc ça prend.
Donc 7 points, c'est le format qui est diffusé en salle.
Ouais, c'est ça.
Et ça correspond à quoi ? C'est du son ou c'est tout ?
Ouais, c'est le son, c'est vraiment le son, 7 points.
C'est le système son,
ouais, le système son. Enfin, nous, on fait 7 points, après, il y a le Dolby Atmos, etc.
Bon. Mais bon, ça, c'est encore...
Bien, donc on va faire... En parlant de son, on va faire une nouvelle pause musicale. Je te laisse l'annoncer, Samuel, tiens, soyons fous.
On va écouter Philippe Phillips et son titre Gone, Gone, Gone.
When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string,
now sharing your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me. So I would do it for you. After you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone.
Et c'était Gone, Gone, Gone de Philippe Philips.
Formidable.
Pourquoi avoir choisi ce titre ?
Alors, bah, moi, c'est un titre que j'apprécie parce que je l'ai découvert du coup dans le film Spider-Man avec Andrew Garfield, et c'est ça fait partie déjà de mes films préférés parce que j'aime bien la vibe de ce film qui change de certains Spider-Man comme Sam Raimi ou ceux de Tom Holland, et je trouve que dans cette musique il y a quand même quelque chose de mélancolique avec un regain d'espoir qui, je trouve que tout est bien mélangé, qu'on retrouve un peu tout, donc c'est quelque chose qu'on peut écouter sur une route au soleil en partant en vacances, comme quand on a un petit peu la déprime ou autre. Et Moi, je l'écoute très souvent, celle-là. Donc, elle me réconforte, peu importe la situation dans laquelle je suis.
Ouais, c'est de bonnes vibes. Mmh. Et alors, je change un petit peu de sujet. On l'avait à peine évoqué la dernière fois, mais vous avez été formé donc, à l'école de cinéma de Tours, l'ESCAT. Quel cursus est-ce que vous avez suivi ? Et est-ce que c'est un cursus classique, licence, master, ou c'est plutôt spécifique cinéma ?
Alors, nous, bah, c'est une école privée. Enfin, en tout cas, quand nous, on l'a fait, c'est une école privée. Peut-être que ça a changé d'ici là. Mais en fait, c'est du coup une école payante, comme beaucoup dans les écoles de cinéma. Et il y avait plusieurs options. Il y a soit mise en scène, donc qui va vers le scénario, la réalisation, ou alors la technique, donc vers chef opérateur du son, l'image ou l'éclairage. Donc nous, on s'est mis dans le côté mise en scène parce que c'est vraiment ce qui nous tenait, on va dire, à cœur. On voulait déjà savoir faire un scénario et comment réaliser, etc. Et ensuite, on a vu que la technique nous manquait. Mais... voilà, en fait, c'est ça. Donc,
pas que en technique.
Oui, au final.
En mise en scène aussi.
Mais,
bref, voilà.
Le but, c'était d'approfondir ça. Et bah, c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble. Parce que,
c'est ça le plus important.
De base, on avait même du mal à se voir. Hein, parce oui. que au niveau de nos caractères de base.
Ça collait pas au départ.
Ça matche pas.
Ah bah on s'est engueulé le premier jour.
Voilà.
Je voulais plus voir sa gueule après.
Mais non.
Bien.
Mais... non mais c'est comme ça et puis après, oui. Ça marche mieux maintenant. Bon, c'est beau.
Toujours pas t'encadrer, mais. Mais oui, non, mais c'est ça, en fait, on a appris à travailler et en fait, on s'est dit, bon, l'école nous restreint quand même pas mal, donc viens, on fait des trucs en dehors, comme ça, on peut un peu plus se lâcher, un peu plus être nous-mêmes. Et c'est là que ça a vraiment matché au final, parce qu'on a vu nos méthodes de travail fonctionner ensemble en dehors de l'école, parce qu'à l'intérieur de l'école, en fait, tu avais tellement de trucs que tu étais là en mode, bah pff, oui, bon, ça, je peux pas le faire, bon, bah vas-y, fais-le comme ça, tant pis. On nous a dit, la directrice a dit, bon, bah non, pas de fondu au noir, hop, bah on l'enlève, alors que nous, ça avait un impact dans notre film. Donc, quand on avait la main libre sur nos projets, du coup, ça nous a permis de réellement se rencontrer professionnellement parlant et se dire, ok, ça match. Genre là, j'ai du mal à jouer, ah bah en fait, ça va, il arrive à me diriger en tant qu'acteur. Par exemple, mais oui, c'est vrai que cette école où on a eu un peu de mal à s'y intégrer parce qu'on a des caractères qui
de merde,
voilà, qui sont
hors système,
pas forcément facile et ce que je comprends totalement.
Après, c'est plutôt pas mal, ça fait aussi une force et on arrive à après quand on est trop dans le système après, enfin c'est compliqué de s'en sortir. Donc là au moins, ça nous permet d'être là maintenant avec vous et puis aussi dans les cinémas et d'avoir pu concrétiser nos propres projets. C'est une force, je pense.
Et alors nous, on a un petit peu fouillé sur le site de l'ESCAT.
Oula, faut pas trop
et
fouiller.
On est tombé sur une photo de la promo 5.
Ah, bon, ça va.
Donc vraiment une promo choisie au hasard.
Voilà.
Et en dessous étaient dressés les portraits des étudiants de cette promo.
Oula.
Et on est donc tombé sur un certain Steve Pénicaud.
Oula.
Qui disait « Bonjour, je m'appelle Steve Pénicaud, j'ai 18 ans et je réside actuellement à Toulouse. » Je suis passionnée par les films, comment ils sont réalisés, comment ils sont écrits et comment un film se construit du début à la fin. Absolument tout me plaît, que ce soit l'écriture, la réalisation, l'interprétation d'un rôle, le montage et tout ce qui suit. Je fais des vidéos depuis plusieurs années pour m'améliorer et voir mes défauts dans la construction de mes vidéos. J'ai plusieurs projets de films et de séries que j'aimerais réaliser. Je compte bien progresser et m'améliorer avec l'enseignement que va m'apporter l'ESCAT. Bon. J'espère devenir auteur, réalisateur et acteur un jour.
Il y a une phrase qui merde, mais sinon, sinon ça va, il s'en sort pas trop mal, le style de 18 ans, il avait à peu près raison.
Et Nathanaël, tu vas pas passer ce
point. Non.
Vas-y, vas-y. Voilà. Bonjour, je suis Nathanaël. Ayant quitté mon BTS en milieu d'année 2020, j'ai décidé de commencer à ouvrir les portes du monde du cinéma qui me fascine depuis toujours. Je consacre la plupart de mon temps libre à différents projets cinématographiques depuis mon adolescence en réalisant avec l'aide de ma famille ou de mes amis. J'ai dans mon esprit la ferme intuition depuis bien intention depuis bien des années de pouvoir réussir dans le milieu. C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers cette école. Donc, j'ai eu des échos dès sa création. Mon but est de pouvoir découvrir l'envers du décor et de pouvoir passer de l'amateur que je suis à un professionnel.
Quel mytho ! Quel mytho !
Techniquement, il y a
le début est bon, la fin, bon, un peu plus bancal. Mais bon, après, ça, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte.
Voilà, et alors nous, on a une petite question. Entre cette écriture et cette entrée dans l'école, et maintenant, quel bilan vous faites ?
Mais quelle question piège !
Bon, non, pas du tout, elle se veut pas comme ça.
On a vu ce qu'il fallait pas faire, et du coup, maintenant, on s'oriente sur ce qu'il faudrait faire. Voilà. Je pense qu'on a toujours cette envie et ces objectifs-là. Maintenant, on veut y arriver peut-être de manière différente.
Ouais, comme je disais, c'est vraiment aussi se faire confiance. Ça nous a appris beaucoup à se faire confiance, croire en ses projets, croire en ce qu'on veut faire, malgré justement qu'on nous empêche de le faire. Parce que c'est vrai que le cinéma, oui, effectivement, il y a des codes, il y a une théorie, mais il y a aussi, le cinéma, comme la société, évolue. Donc, les codes du scénario, de la mise en scène peuvent évoluer aussi. Et comme c'est des professionnels qui avaient un certain âge, entre guillemets, dans le cinéma, qui avaient une petite cinquantaine d'années, donc forcément, ils sont bien formatés par le système. Donc, après, nous, en tant que jeunes, on peut dire « Ah oui, c'est des petits cons, ils ont envie de faire à leur sauce. » Oui, mais c'est aussi, on a envie d'apporter une patte différente au cinéma. Et ça crée une force, en fait, de prendre ce qu'on a à prendre. Et après, on s'approprie le reste et on crée sa propre patte artistique.
Mais, et alors, je t'en
prie. Pardon, c'était juste pour dire que, en réécoutant je me dis, il y avait quand même une forme de naïveté aussi qui fait qu'on perdu aujourd'hui. Donc on est un peu plus réaliste sur
le milieu.
Voilà.
Et bien encore une fois, ma question complète ce que tu viens de dire.
Oh bon sang.
Vous, quel a été, au-delà de la partie technique, le plus gros apprentissage que vous avez reçu depuis votre formation. Et est-ce qu'il y a eu une espèce de claque que vous avez pu vous prendre ?
Ne faire confiance à personne. Non, vraiment.
On n'est pas loin.
Non, mais quelque part, oui, c'est vraiment c'est un milieu d'intérêt aussi, où on prend les gens quand on a envie de les prendre. Ça piapiate beaucoup aussi, mais comme partout. Mais je veux dire, c'est un microcosme où il y a beaucoup de travers un peu sociétaux qui sont exacerbés dans le milieu du cinéma. Et je ne pensais pas qu'on allait le voir autant dans cette école. Mais je dis dans cette école, mais à mon avis, c'est dans beaucoup d'écoles
du cinéma.
Mais
déjà, à l'école, ça se voyait.
Ça se voyait. Alors nous, comme on était hors système, on était un peu en dehors de tout ça. Et après, au fur et à mesure, on se reconnecte à la réalité de l'école et de l'environnement des gens. Et on fait... Ah, c'est comme ça que ça se passe. Bon, ok. Donc, on se rend compte que c'est pas si bénéfique que ça et que les gens qui sont bien vus par l'école, maintenant, ce qu'ils deviennent, j'en sais trop rien. Mais je veux dire, chacun avance à son niveau. Finalement, c'est pas ceux qui étaient les plus avancés dans l'école qui sont les plus avancés maintenant. Ça veut rien dire.
Il y a eu un gros choc des réalités entre tous les.
Clairement.
Effectivement, comme nous, on est quand même pas mal excentrés de. On va dire tout ce qui pouvait se passer dans l'école et qu'on n'est pas non plus les plus sociables, donc on ne se tenait pas forcément au courant de certains trucs. Nous, on avait notre petit groupe, on faisait nos projets à côté, puis rouler jeunesse, entre guillemets. Et du coup, quand on revenait dans cet établissement et qu'on était là, on va devoir te mettre au travail avec un tel, et que tu es là en mode, c'est bizarre, il ne bosse pas avec moi, ou en tout cas, d'habitude, il est plus fort que ça. Et tu es là, mais c'est parce qu'il ne peut pas te piffrer. Tu es là, ok. Et en fait, tu rattrapes 5 wagons de retard d'un coup et tu fais faut que je fasse avec.
Non, mais juste ce que je veux dire par gentillesse et par politesse, c'est vrai que il faut aussi se rendre compte que dans une école, il y a aussi l'encadrement, la direction qui est importante. Je ne remets rien en question, mais il faut aussi que la direction sache se remettre en question quand on fait appel à des choses, quand on explique ce qui se passe au sein de l'école, qu'il y ait aussi une ouverture d'esprit, ce qui est important, je pense. Enfin, je veux dire, quand on donne de l'argent à cette école, on a besoin aussi d'avoir un retour concret, que ce soit quelque chose de constructif et pas qu'on soit dans une forme d'un petit peu de confrontation et de formatage. Et vraiment, c'est tu fais ce que je suis. Enfin, donc, en fait, il y a aussi ça où forcément... La direction, en fonction de comment se comporte la direction, ça imprègne aussi les élèves. Et il y a tout ce système qui se crée autour de la direction. Donc, il faut aussi prendre ça en compte.
C'est surtout dans un domaine artistique. Normalement, on pourrait se dire c'est ouvert d'esprit. Ouais. On va essayer d'écouter les besoins de tout le monde, quitte à ce que ça change à chaque année ou à chaque promo. Et ce qui n'est pas le cas.
Parce qu'il y a une forme de paradoxe. On ne peut pas te dire « crée pour te casser la gueule » et après « non, mais fais ce que je te dis », en fait, sans qu'il y ait de débat et d'échange, en fait. C'est ça qui est dommage. Et forcément, nous, on a dit « tu veux pas qu'on se casse la gueule là ?» Et on va se casser la gueule dans notre coin et puis on verra ce que ça donne, quoi. Voilà. Bam, ça c'est dit. Non, mais après, on remet rien en question. Après, chacun voit ce qu'il a envie de voir et chacun... se sont jugés ou pas dans ce qu'on dit, mais voilà.
Eh bien, moi, je vais terminer sur quelque chose de positif.
Il faut.
Le rappel des projections à venir. Vendredi 25 avril, on retrouve donc, et ce sera en votre présence,
c'est ça.
Au Ciné Royal Vigny à Loche à 21h, le vendredi 9 mai au Pâté à Tours à 20h. Quelles sont vos appréhensions alors pour les prochaines projections ?
Déjà, à Loche, il y a un peu cette pression de... Comme moi, j'ai tourné là-bas et que Marc a bien voulu me prêter son cinéma, c'est vrai que du coup, potentiellement, il va y avoir aussi les figurants que j'ai recontactés en leur disant qu'il y a cette projection là-bas. Donc, des gens qui n'ont pas forcément eu tout le scénario ou toute l'histoire en tête, qui vont découvrir aussi le film, en tout cas le mien, d'un coup, et me dire, est-ce qu'ils étaient contents d'avoir signé pour ça ou pas ? Est-ce que, voilà.
Il y avait beaucoup de figurants ?
J'en avais entre 20 et 30. Et pareil, de tout âge, ça peut être aussi des questions très différentes, donc c'est cool, ça va être varié. Et me dire est-ce que Marc va être content, entre guillemets, que ce film soit, enfin que nos films soient projetés dans son cinéma ? Est-ce que dans sa tête, il a fait le bon pari sur nous d'aider des petits jeunes pour aller jusque-là ? Donc c'est... Moi, j'ai un petit peu cette appréhension de me dire, ça serait cool que... les gens viennent le voir et que Marc se dise j'ai entre guillemets bien fait d'aider ces petits jeunes, etc. Et que les gens autour se disent c'est cool parce qu'ils sont venus jusqu'à Loche pour filmer notre cinéma et là ils viennent aussi jusque là pour le montrer. Moi c'est ce que j'espère.
Avoir une espèce de retour sur investissement aussi.
Ouais, c'est ça.
Enfin, sans parler de l'aspect financier bien sûr,
mais
toute cette implication qu'il y a eu.
Ouais, c'est ça.
Et alors, le après-projection, vous disiez que vous étiez en train déjà de travailler sur de futurs projets. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus ou on reste très mystérieux ?
Non, on peut en parler un petit peu. Là, on commence à être en phase. Bon, on a eu du mal à se lancer là, parce que forcément, avec la distribution, on est en phase d'écriture de nos deux prochains longs. Donc là, moi, j'ai toute la trame narrative qui est là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à développer. Les personnages sont
donc,
là, les intrigues.
Un prochain long métrage chacun ?
Ouais, c'est ça. Steve se lance dans le grand bain, il devient un adulte. Et il se lance dans le long métrage. Non, je rigole. C'est taquine. Non, non, mais ouais, donc on est vraiment dans cette phase vraiment d'écriture. On espère, enfin, pour ma part, que ce sera terminé. Ma mère va me maudire quand je dis ça, parce qu'elle dit : ah non, faut que tu fasses un métier alimentaire. Non, non, je continue dans le cinéma, quoi qu'il arrive. Voilà, que terminer cette phase donc, au moment de l'été, comme ça, après dès le mois de septembre, on rentre en prépa, on monte les équipes, etc. Et qu'on prenne le temps pendant un an de constituer l'équipe, les décors, etc. pour tourner en 2026. Donc le projet sera un long métrage sur le syndrome de Diogène. Voilà, et mettre en parallèle donc, cette maladie, le syndrome de Diogène, et ce que nous, on fait subir à la planète en termes de pollution, etc. Donc vraiment faire ce parallèle. Voilà, encore un sujet. Voilà.
Mais justement, c'est hyper intéressant parce que, bah non, on voit pas ça dans les grandes salles.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Ah.
Et comment mettre en parallèle des histoires individuelles, des gens aussi qui sont invisibilisés parce que ça existe et de plus en plus, et comment les mettre avec cette grande histoire qu'on traverse, cette grande fresque qu'on traverse avec la pollution, l'écologie et tout ça.
Et qui est quand même un aspect communicatif entre tes films, par
clairement.
Exemple. Que ça se réponde un minimum, même
bien
si
sûr.
C'est pas potentiellement dans le même univers.
C'est ça, oui, vraiment, mais les films sont quand même connectés les uns avec les autres. Enfin, y a...
le début d'une fresque cinématographique.
Exactement, tout à fait.
Et bah, si jamais pour mon film, moi j'ai commencé à l'écrire il y a quelques mois, je suis toujours en train de le retravailler, je suis à peu près au middle point, donc milieu de l'histoire. Je sais où je veux aller, pareil, j'ai quand même une bonne idée de la trame narrative, je sais comment ça va se finir, etc. Mais je prends mon temps pour l'écrire, parce que souvent mon problème c'est que j'écris puis après j'enlève. Donc je laisse mûrir un petit peu, et pareil, j'aimerais le finir allez, avant juillet, pour commencer, pour avoir un scénario qui me plaît à moi, pour potentiellement l'envoyer si jamais des boîtes de production veulent financer. Et sinon, bah, pareil, en attendant ces réponses-là, bah, je commencerai à constituer mon équipe et à faire tout ce travail en amont, au cas où. Et pour potentiellement, si je suis bien à fond dessus, un tournage qui pourrait commencer fin de cette année. Donc, on verra.
Est-ce que c'est possible d'aider les petits créateurs dans leur réalisation ?
Alors, vous parlez en mode des donations qu'on peut faire ?
Pour le moment, non. Là, on est en train de voir pour mettre en place du mécénat avec des entreprises pour voir ça. Après, on verra en fonction aussi des projets que nous allons mettre en avant, savoir si on fait un financement participatif ou pas.
Oui,
après, on essaye de moins demander d'aide possible aux gens pour qu'on se débrouille par nous-mêmes et que vraiment l'aide, ça soit après, une fois qu'on ait distribué le film, qu'on a un petit peu une aide après réalisation pour réinvestir dans les projets d'après. Donc, c'est plus en organisation de ces productions pour le moment qu'après, voilà, on espère faire d'autres projets.
Et alors, si on veut vous aider en termes de visibilité, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ?
Tout à fait, sur Instagram, TikTok, les petits créateurs 37. Si je m'abuse, je ne parais pas fort là-dessus, mais voilà.
Eh bien, merci beaucoup, donc Nathanaël Robin et Steve Pénicaud, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'accueil.
Et Mathéo, qui est avec nous pour son stage, a préparé une chronique. Si je vous dis sponsor et sport, il y a un tas de marques qui vous viennent en tête, mais une en particulier a su s'imposer. On te laisse la parole.
Bien, effectivement, aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de la marque Red Bull, qui a su s'imposer en tant que sponsor dans plusieurs sports. Pour commencer, du coup, je vais vous parler un peu de l'histoire de la marque. Donc, la marque a été créée au tout début en Thaïlande. En 1976 par Krating Daeng. Elle a été rachetée un peu plus tard, en 1984, par Dietrich Mateschist et Chailo Iovedia, des Autrichiens. La marque a totalement été transformée, que ce soit du logo jusqu'au nom, pour donner la fameuse marque qu'on connaît tant aujourd'hui. Du coup, maintenant, on va passer au vif du sujet. Red Bull, du coup, c'est aujourd'hui un grand sponsor dans plusieurs sports extrêmes. On les retrouve dans beaucoup de sports, du coup, tels que le VTT, dans le ski, etc. On les voit dans énormément d'événements, tels que la Red Bull Airline, des événements de VTT, du coup, la Red Bull Rampage. On les retrouve aussi en wingsuit avec notamment des records dont un homme dépassant les 550 km/h, évidemment sponsorisé par Red Bull. Mais ce qu'ils veulent d'abord mettre en avant, c'est pas vraiment la boisson elle-même. Ce qu'ils cherchent à mettre en avant, c'est vraiment la façon de vivre en Red Bull. Donc ça veut dire le dépassement de soi, l'extrême, la vie extrême, le sport en extrême, dont leur logo Red Bull donne des ailes qui prend tout leur sens en les voyant sponsoriser de gros événements. On les voit également en Formule 1, parce que, et oui, dès 1995, Red Bull prend place en Formule 1 avec l'écurie Sauber, devenant leur principal sponsor. Cela fait du bruit à l'époque, parce que notamment le marché du sponsor de Formule 1 était pris par les cigarettes. Mais Red Bull a su s'imposer jusqu'en 2005, où ils ont su racheter l'écurie de Jaguar pour fonder leur propre écurie. Et puis après, on les voit aussi dans plusieurs domaines, dont le foot aussi, avec deux clubs, autrichiens et allemands. On peut les voir aussi, du coup... oui, du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que Red Bull, du coup, c'est pas seulement une boisson, c'est vraiment un mode de vie. Ils sponsorisent du coup beaucoup d'événements, dont la Formule 1, comme je l'ai dit. Mais le fait qu'ils sponsorisent des événements, ça montre un peu leur façon de penser. Ils veulent pas faire comme toutes les marques à juste faire des spots publicitaires. Ils veulent simplement se montrer autrement en extrême. Ils inspirent énormément de marques, notamment BTW, qui eux se sont mis à sponsoriser de la Formule 1 et des sports d'hiver également. Monster, qui sponsorise énormément de sports automobiles également, ou Coca-Cola sponsorisant les Jeux Olympiques et le foot. Red Bull inspire énormément de marques. Ça pour dire qu'ils ne cherchent pas à vendre leur boisson, mais ils cherchent à vendre un style de vie extrême, énergétique, et ils font cela en montrant dans des sports au domaine extrême. Et on peut les voir partout, c'est ce qu'ils veulent montrer. Et pour finir sur une bonne note, j'ai préparé une petite liste de quelques anecdotes de Red Bull, quelques exploits. Par exemple, en 2012, le parachutiste autrichien Félix Baumarté saute depuis la stratosphère à 39 km de hauteur, dépassant le mur du son. Ce projet totalement financé par Red Bull a été suivi en direct sur YouTube par 8 millions de spectateurs. Ou encore, depuis les années 2000, il sponsorise également les courses de caisses à savon, des petits véhicules sans moteur ni frein, où le seul objectif c'est de finir une trace prédéfinie. On peut aussi parler de leur record en Formule 1, avec un pit stop fait en 1 seconde 82, donc changer les 4 roues d'une Formule 1, ou encore un record de vitesse à vélo français sur la piste de Chabrières, fait par Eric Baron, avec une vitesse de 227 km/h à vélo. C'était Mathéo sur Radio Campus.
Merci beaucoup Mathéo.
Avec plaisir.
Et alors, le podcast de cette émission, mais faisons-le ensemble, allez, allez, ouais, la bouche en cœur. Non, pardon, je te laisse.
Le podcast de cette émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique avec Coldplay,
ouais.
En feat avec Kino. Et c'est le titre All My Love. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Bonne soirée à tous.
C'est-à-dire comment
Ouais, je rame.
Rame donc. Rame, Samuel.
On va passer à la, une prochaine question.
Comment est-ce que je peux faire ça? Hop. Magnifique, ça sort pas.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.